Sud Radio, le grand matin été, 7h-10h. Laurence Garcia.
C'est l'heure de l'Info Éco Plus avec Didier Testo, fondateur de la Bourse et la Vie TV. Bonjour Didier.
Bonjour Laurence.
Alors Didier, pendant que la plupart des Français sont encore en vacances, les affaires continuent. Enfin, je parlais des affaires des entreprises.
Hein, oui, bien Laurence, c'est une belle histoire d'ailleurs entreprise au pluriel, hein, même si elle aurait pu être différente pour la PME. Mais c'est le rachat par Adecco de la société française AK Technologies. Alors un grand groupe qui rachète une petite entreprise. Mais Adecco aussi a été petit. Alors c'est vrai que c'était il y a longtemps. Hein, je pense que pas mal d'auditeurs et d'auditrices connaissent le nom d'Adecco, spécialiste des services, de l'intérim, un peu moins celui d'AK Technologies. J'ai eu la chance, moi, quand j'ai eu mon activité, de voir grandir. Une page de l'histoire Adecco s'était tournée d'ailleurs en juin dernier avec la disparition de Philippe Fauriel d'Estezay, qui était le fondateur d'Eco, une petite entreprise de travail temporaire à Lyon, devenue au fil des ans Adecco, numéro 1 mondial après la fusion avec le Suisse Adia de Klaus Jacobs. Un spécialiste de la bourse rappelait à ce sujet que la société était entrée sur le marché parisien en 1973 sur une base de à peu près 40 millions d'euros. Groupe Adecco aujourd'hui vaut 10 milliards de francs suisses à Zurich. Un parcours exceptionnel pour un dirigeant plutôt discret. Et l'annonce récente donc de ce rachat d'AK Technologies, qui avait été créé par Mauro Ricci à Lyon également pour 2 milliards d'euros, eh bien est venu remettre un coup de projecteur sur le groupe suisse. Les actionnaires ont donc accepté au prix de 49 euros par action. C'est une prime de 115% par rapport au cours de l'action, puisque AK Technologies est cotée en bourse. Cela en dit assez long sur le manque de valorisation finalement de certaines de nos PME et ETI en bourse. Si un grand groupe est capable de dire ça vaut 100% de plus que le cours de bourse, c'est qu'un certain sous-valorise nos PME.
C'est
alors
clair.
Le groupe Adecco, dans la foulée, a dévoilé ses résultats du deuxième trimestre. Ça fait plus 26% sur un an. C'est donc une reprise du chiffre d'affaires de 26% sur un an. Et l'objectif d'Adecco est d'associer les activités d'AK Technologies à sa filiale Modis, qui est spécialisée dans les métiers de l'ingénierie. Patron d'Adecco pourra compter sur un réseau à peu près de 50 000 experts. Il pourra également compter sur la recherche et développement en ingénierie et technologie numérique. Et il doit hisser son groupe au deuxième rang mondial derrière le français Capgemini. C'est donc une opération intéressante avec notamment les sujets concernant les usines intelligentes ou les voitures intelligentes. Et le fondateur d'AK Technologies avait lui dit qu'il aurait pu finalement, si c'était associé à quelqu'un, s'associer avec Modis ou racheter Modis. L'an dernier, AK avait été secoué par la crise sanitaire. Voilà donc une nouvelle histoire qui s'ouvre avec Adecco.
Et qu'on suivra forcément. Alors Didier, l'été c'est aussi propice pour quelques clarifications entre actionnaires et notamment celle du groupe SEB qui concerne d'ailleurs plusieurs familles.
Oui, le farniente sur la plage remplace peut-être les conférences à distance. N'empêche que les manœuvres financières officielles ou plus discrètes peuvent aussi avoir lieu. Alors là, on en est encore loin, mais le groupe SEB est coté en bourse également. Il a communiqué sur le sujet des dissensions entre différents actionnaires. C'est un groupe familial. Encore un Lyonnais, Laurence, dont nous connaissons tous les marques, mais pas forcément le groupe en entièreté, puisqu'il a tellement grandi au cours des dernières années, dans le petit électroménager, Tefal, Seb, Moulinex, bien entendu, mais depuis 2000, Thierry de la Tour d'Arthez, qui est le gendre d'Emmanuel Lescure, la famille fondatrice, et qu'il a succédé, lui, à Jacques Guérard, c'était en 2000. L'accélération a été assez importante avec le développement à l'international. Sous sa présidence, le groupe a étendu ses activités, support en Chine, par exemple, mais même dans les machines à café automatiques professionnelles. 6 marques mondiales aujourd'hui ou à vocation mondiale, Allclad, Krups, Lagostina, Moulinex, Roventa et Tefal. Alors on dirait tout va bien chez SEB, alors on pourrait dire presque, c'était un conflit qui est apparu publiquement entre les actionnaires, notamment la société Fédérative qui regroupe des actionnaires familiaux, 9,4% du capital, avait développé un projet opposé, en tout cas c'est ce que dit le groupe SEB, à l'actionnaire principal. Et lors d'une assemblée générale le 6 août, vous voyez, c'est plutôt discret quand même de faire une assemblée le 6 août,
c'est clair.
Bien Thierry de la Tour d'Arthez et les actionnaires ont voté en faveur de la révocation du mandat d'administrateur de Fédérative, donc cette holding d'actionnaires familiaux. Alors il y a un peu un contexte tendu, puisque déjà en février 2019, le concert entre les actionnaires n'avait pas été signé, le nouveau pacte d'actionnaires. Fédérative a indiqué de son côté que ça avait été fait un peu dans la précipitation. La demande de révocation, en tout cas, démontre peut-être la volonté d'emprise sans partage de Thierry de la Tour d'Arthez. C'est ce que dit aujourd'hui Fédérative. Mais ce qui est intéressant derrière cela, Laurence, c'est qu'il y a finalement deux démarches d'actionnaires pour les actionnaires familiaux, puisqu'on retrouve les mêmes familles dans les deux actionnaires, dans Fédérative et dans ce concert qui s'appelle Venel Investissement Génération, qui est lui majoritaire. un des effectivement de Fédéractive voudrait ouvrir à de nouveaux investisseurs. Il l'avait fait avec Peugeot, par exemple, et il voudrait ouvrir à des investisseurs institutionnels au-delà du cercle familial, ce que ne souhaite pas Thierry de la Tour d'Arthez. Pour rappel, en 1974, lors de l'introduction en bourse, 71% des actions étaient détenues par les fondateurs, par les actionnaires familiaux historiques. 47 ans plus tard, on en est à 41%. C'est donc un conflit de stratégie actionnariale à suivre.
Et puis pour terminer rapidement, Didier, un sujet évoqué cette semaine par le Financial Times sur la situation des ports dans le monde et l'effet de la pandémie sur le transport maritime. C'est un sujet intéressant à plusieurs titres d'ailleurs.
Oui, alors j'avais l'occasion ici de vous parler du porte-conteneur géant Evergreen qui avait été bloqué plusieurs jours dans le canal de Suez, qui avait montré combien le transport maritime était clé pour l'économie mondiale. Eh bien, d'après le Financial Times, il y a actuellement 353 porte-conteneurs bloqués à l'extérieur des ports. Et il y a même, par exemple, à Los Angeles, à Long Beach aux États-Unis, 22 navires en attente d'amarrer. Alors, ça peut générer, bien sûr, des ruptures de stock. Ça peut générer, effectivement, des sujets pour les conteneurs de décharger cette marchandise dans les temps. Je vais juste vous donner des chiffres. Eh bien, les navires aujourd'hui qui sont de plus en plus grands, ces navires qui transportent les conteneurs, on peut transporter jusqu'à 20 000 conteneurs. Laurence, ça veut dire, pour avoir une idée de ce que ça représente, si on les mettait sur Terre, ça voudrait dire qu'on arriverait à une distance entre Paris et Amsterdam avec des conteneurs tout au long de cette route.
L'image est forte, là. Oui.
Et donc, il va falloir que ces ports gèrent effectivement une nouvelle transition. Est-ce que ces porte-conteneurs vont pouvoir s'installer dans ces ports? Et puis, est-ce que nous, consommateurs, nous allons continuer à faire autant de commandes par Internet? Ça aura un impact sur le développement économique des uns et des autres.
Voilà, grande question. Merci beaucoup, Didier Testo. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la Bourse et la Vie TV. Et puis bien sûr, c'est à réécouter en podcast sur sudradio.fr.
Merci Laurence.
À samedi prochain, merci.